Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi. Plus de 10 000 personnes déplacées de guerre vivent dans des conditions très difficiles à Komanda en Ituri. Ces déplacés sont sans assistance et ne peuvent pas compter sur les autochtones, eux-mêmes n'ayant aucun moyen de survie car éloignés de leur champ à cause de l'insécurité. Ils lancent tous un appel à l'aide aux autorités du pays. Après plus de 2 mois de grève, les infirmiers du secteur public du pays ont repris du service cette semaine. Jean-Fidèle Boyo, coordonnateur national de l'intersyndicale de la santé, affirme qu'ils ont pu obtenir 2 réponses sur les 3 revendications de la grève. Dans ce journal, notre reporter fait le constat d'une reprise de travail encore timide dans les hôpitaux de Kinshasa. Godefroy Njoleke est l'invité de ce journal. Il est le directeur provincial adjoint de la régie des eaux au Kasaï Oriental. Au micro d'Esther Dalafina, il va parler d'un nouveau groupe électrogène et de 2 véhicules reçus par la régie des eaux Mbujimayi. Bonsoir à tous. En Ituri, plus de 10 000 déplacés installés à Komanda vivent dans une précarité extrême. Environ 10 parmi eux sont morts vers la fin du mois d'octobre dernier et plus de 30 enfants souffrant de malnutrition sont dans un état critique au site de Kibonge. Selon le comité de ces déplacés, les moyens de subsistance sont très réduits en raison des difficultés des déplacés à accéder à leurs champs qui sont occupés par les groupes armés, ce qui accentue leur vulnérabilité. Un reportage d'Isaac Raymond rendu par Jean-Claude Lokidile.
Ces déplacés se disent asphyxiés car les moyens de survie sont très limités. L'accès aux champs est difficile même pour les autochtones qui eux aussi vivent dans la misère. Les travaux journaliers qui leur permettaient de gagner un peu d'argent pour subvenir à leurs besoins et atténuer leurs souffrances sont rares. Conséquence, 1 douzaine de décès est enregistrée chaque mois et plus de 110 enfants sont malnutris, dont 30 très souffrant d'anémie sévère. Seuls les enfants et les femmes enceintes bénéficient des soins accessibles, gratuits aux postes de santé proches du site. D'autres catégories de déplacés sont abandonnées à leur triste sort. Résultat, certaines jeunes filles et même des jeunes femmes décident de déplacer se livrent à la prostitution pour survivre. Une femme déplacée lance un cri de détresse.
Nous mangeons au défaut. Et de goyave et des champignons qui poussent dans les déchets des vaches. Tous ces fruits sont finis et même les champignons. Que va-t-on faire pour la survie?
Les humanitaires donnent un petit cash qui, selon les bénéficiaires, ne couvrent même pas les besoins d'une semaine de chaque famille. Ces déplacés qui ont fui les atrocités des ADF et espèrent le rétablissement de la paix dans leur village d'origine pour y retourner et reprendre une vie normale. Bounia, Jean-Claude Loki, Dilet, Radio Kapi.
Nord Kivu, une accalmie relative est signalée ce vendredi sur toutes les lignes de front dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo après des affrontements à l'arme lourde enregistrés toute la semaine. Ces affrontements opposent, comme vous le savez, les combattants du M23 et la coalition des groupes locaux et les FRDC. Ces récents affrontements ont à nouveau occasionné le déplacement des milliers de ménages éparpillés autour de Goma alors que d'autres se sont dirigés dans les fins fonds de Masisi et Rutshuru. Plusieurs sources alertent sur les mauvaises conditions de vie de ces personnes et appellent à une intervention urgente du gouvernement et des humanitaires. Concernant justement la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC, le député national Jean-Baptiste Moindo Kasweka sollicite de la plénière de l'Assemblée nationale l'interpellation du Premier ministre. L'élu du Nord Kivu se dit vivement préoccupé par ce qu'il appelle ambiguïté de cesser le feu unilatéral ainsi que de la préférence d'une solution diplomatique par le gouvernement de la RDC face à la progression de l'occupation du M23 ainsi que l'aggravation de la situation humanitaire. Jean-Baptiste Moindo a à cet effet adressé une correspondance hier jeudi au président de l'Assemblée nationale demandant l'interpellation du Premier ministre afin d'apporter des réponses à la représentation nationale sur l'évolution de la situation au Nord Kivu et en Ituri. Jean-Baptiste Moindo Kasweka est au micro de Michel Kifindangoy.
Alors que l'ennemi avance, réoccupe Bambo, Kichanga, réoccupe Kiloliwe jusqu'aux portes de Sake, lance des attaques aux portes de Goma. Pendant ce temps-là, le gouvernement nous dit qu'il s'attient au respect de cesser le feu. Le porte-parole du gouvernement dit que eux ne sont pas pour l'option de guerre, ils privilégient l'option diplomatique. Et sur le terrain, effectivement, la population se pose la question de savoir si l'engagement du gouvernement est à la hauteur des défis que pose la progression du M23 pour occuper tout ce territoire. Je demande à la plénière de l'Assemblée de faire venir le Premier ministre pour qu'il nous explique à quoi consiste cette préférence de la solution prétendue diplomatique contenue dans l'affaire des routes de Luanda. Je demande à la plénière de l'Assemblée nationale de voter pour que, dans les plus brefs délais, avant la clôture de la session, le Premier ministre vienne expliquer à la nation quelle est la politique réelle de la conduite de cette guerre.
Reprise du travail cette semaine par les infirmiers du secteur public du pays. Quoique mécontent du non-respect de l'accord de Mboudi par le gouvernement, nous avons toutefois obtenu des réponses à deux des trois revendications de la grève. La dernière est en cours de traitement, nous dit Jean-Fidèle Boyo, coordonnateur national de l'intersyndicale de la santé à Kinshasa. C'est une reprise encore timide qui intervient après plus de deux mois de grève et c'est un ouf de soulagement tant pour les médecins que pour les malades, comme nous le dit Merveille Hassani dans ce reportage.
Dans le couloir des plusieurs hôpitaux publics, les infirmiers sont à nouveau visibles. Il est vrai que ce n'est pas encore l'afflux habituel, mais au moins on en voit en train de travailler. Chaque jour qui passe, le nombre augmente. Que ce soit à l'hôpital général des références de Kinshasa, à l'hôpital et à la maternité de Kitambo, à la clinique Ngaliema ou au CNPP, la pression baisse, nous disent le médecin. Docteur Brigitte Toupela, médecin directeur à la maternité de Kitambo, salue cette reprise.
Chacun a son rôle à jouer. Nous ne pouvons qu'être satisfait parce que là, tout le monde est à son poste et le travail peut se faire normalement. Faire deux mois avec un groupe de services manquant, c'est paralyser beaucoup, beaucoup de choses.
Charlie, la trentaine révolue, infirmière à la maternité de Kitambo, s'est dit heureuse de retrouver son poste.
Je suis responsable à la CPN et il y a deux mois qu'on était en grève. On a repris depuis le 6 novembre 2023. Toutes les activités sont en marche maintenant. Il y avait l'ajout des trois mois qu'on nous avait promis et on a donné ça à tous les infirmiers.
Un grand soulagement aussi pour le malade et nous-mêmes, nous dit cette jeune dame, garde malade au CNPP. Donner des médicaments à nos malades ici n'est pas toujours une tâche facile, ajoute-t-elle.
Toujours dans le secteur public, notez le lancement dans la province du Maniema par le gouverneur intérimaire de l'opération de contrôle biométrique des agents et fonctionnaires de l'État. Selon Afani Idrissa Mangala, c'est pour remettre de l'ordre dans le secteur de la fonction publique. Afani Idrissa Mangala est au micro de Florence Kizalunga.
Nous venons de lancer officiellement l'enregistrement et l'identification des agents de la fonction publique et au finish leur octroyer une carte biométrique. Je félicite en passant le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique et aussi les chefs de gouvernement, sans oublier le premier citoyen de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu mettre de l'ordre dans le secteur de la fonction publique. Comme vous le savez, ça fait longtemps que la fonction publique, l'effectif n'était pas maîtrisé et il y avait des matricules corrompus. Les gens étaient enregistrés dans différents numéros matricules, mais aujourd'hui nous venons de lancer cette opération. C'est pour mettre de l'ordre et identifier chaque personnel de la fonction publique. Et c'est un pari gagné. Et cet enregistrement biométrique n'est pas payable. Même la fiche là d'identification n'est pas payable. C'est pourquoi nous lançons une mise en garde à tous les chefs de division. C'est lui qui se mettra à marchander cette opération, il sera passible d'une sanction disciplinaire.
On ne peut pas utiliser abusivement les enfants pour des fins politiques s'opposant à l'article 36 de la Convention des droits de l'enfant. Déclaration du réseau des encadreurs sur l'initiation à la participation des enfants RIP Kwilu, une structure citoyenne qui milite pour la défense et la promotion des droits de l'enfant. Dans une interview mercredi, son coordonnateur provincial dit avoir constaté malheureusement que pendant la période électorale, plusieurs politiciens utilisent abusivement les enfants pour leur campagne électorale. Pour Martin Guizébou, la place de l'enfant est à l'école et non dans la rue pour applaudir les candidats aux élections. D'où cet appel aux parents à bien garder leurs enfants. Martin Guizébou, coordonnateur provincial du RAIP Kwilu, est au micro de Irène Boma.
Nous, étant que défenseurs du droit de l'enfant, nous avons toujours constaté que pendant la période électorale, le politicien utilise abusivement les enfants dans des campagnes électorales, dans des faits politiques. Et je me souviens encore, en 2011, un enfant a été piétiné par la foule parce qu'il suivait un candidat président de la République et l'enfant est décédé à cette époque. Et maintenant, c'est le même constat que nous voulons qu'on revive pendant cette campagne électorale. Il commence déjà à venir. Les enfants fuient même l'école pour aller à l'aéroport, dans la rue, en train de toucher les drapelés, en train de suivre le politicien, le candidat député, c'était qui, tout ressort. Aussi longtemps qu'ils vont à la contre de la convention relative aux droits de l'enfant. La seule article 36 qui stipule qu'on ne peut pas utiliser l'enfant pour des faits politiques. Ces enfants que vous utilisez ne sont ni électeurs, ils sont ni éligibles. Alors, c'est pour cela que nous ne voulons plus que les enfants soient utilisés abusivement avant, pendant, même après la période électorale. Le parent, nous devons surveiller nos enfants. Les enfants ont de la place à l'école et non dans la rue. Les élections ne soient pas une occasion pour détruire l'éducation des enfants d'autrui.
Processus électoral encore. Une cinquantaine de femmes de Loubero, leaders des associations féminines et candidates aux prochaines élections législatives, ont été formés hier sur le leadership et la gestion de la campagne électorale. Cette formation était organisée par la section genre de la MONUSCO en collaboration avec le bureau genre, famille et enfants de la ville de Béni. Objectif, renforcer leurs connaissances dans la mise en œuvre des stratégies en vue de la réussite de leur campagne électorale. Ruth Sabouni, chef du bureau genre, famille et enfants de la ville de Béni, explique au téléphone de Marc Marot.
C'est dans le cadre de renforcement des capacités, mais aussi des transferts de compétences au niveau des services étatiques. Comme vous le savez, dans quelques matins, c'est la campagne qui va commencer. On est juste venu éveiller certaines choses pour qu'elles puissent bien planifier leur campagne dans les quelques matins qui viennent pour qu'elles se lancent en état bien outillé dans la communauté. Par rapport à d'autres élections, les femmes se sont présentées vraiment à bon nombre. C'est déjà épais parce que dans les élections passées, il y avait un défi, la non-présentation des femmes d'abord, mais comme on a eu à étudier comment pallier à ces défis, on a renforcé quand même la capacité des femmes. Les femmes ont été formées et informées. Et avec cette détermination, la collaboration aussi qu'elles manifestent, nous osons croire qu'avec la bonne planification qu'elles vont faire au cours de cette campagne, nous allons convaincre cette communauté pour que les femmes soient élues.
Cap vers le Haut-Katanga. Deux enfants sont morts dans la commune de Rouachi à Lubumbashi après avoir consommé les beignets. D'autres personnes, dont la vendeuse des beignets, qui en ont aussi mangé, sont admises dans un centre hospitalier. Leur état de santé est jugé préoccupant. D'après un membre de la famille des victimes hospitalisées, citant les sources médicales, cette farine de froment contiendrait des substances toxiques. Retour sur les faits avec Jean Gandou.
D'après nos sources, tout a commencé le mercredi dernier aux heures vespérales. Une maman vendeuse de beignets s'est vue proposer par la fille de son voisin un seau de la farine de froment qu'elle a acheté. Quand elle a fini de préparer les beignets, elle est allée voir la fille qui lui a vendu cette farine pour lui signifier que son froment était de mauvaise qualité. Le matin, une cliente s'est présentée pour acheter les beignets. La vendeuse lui aurait dit que ces beignets n'avaient pas bon goût. La cliente en a pris un qu'elle a mangé sur place. Puis, elle amènera avec elle quelques autres beignets pour ses deux enfants. Après avoir consommé ces beignets, ses enfants de 2 et 3 ans ont manifesté les signes de fatigue et sont tombés avant de rendre l'âme. Pendant ce temps, deux autres enfants de la vendeuse de beignets, âgés respectivement de 22 et 16 ans et qui ont aussi mangé ces beignets, ont également manifesté des signes de fatigue avec des difficultés respiratoires. Ils ont tous été conduits à l'hôpital en soins intensifs. Saisie du problème, le parquet a mis la main sur la vendeuse de beignets. Après l'avoir auditionnée, elle aussi a eu le même signe que les autres. Les difficultés respiratoires, le maux des têtes accrues et le maux des ventres. Elle est pour l'instant admise dans un centre hospitalier, tout en étant toujours à la disposition de la justice, indique un membre de sa famille. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
À Kinshasa, notez que l'inhumation de Nemwanda Nsemi aura lieu à Sukumalongo, son village natal, dans le territoire de Luozi au Congo central. Une commission devrait être mise en place ce vendredi pour l'organisation des obsèques. C'est ce qui ressort de l'entretien hier à Kinshasa entre le gouverneur de la ville et une délégation composée de la famille biologique de l'église Bundudia Congo, du parti Bundu Diamayala et de quelques notables nés Congo. La délégation a été conduite par le ministre des Droits Humains, Fabrice Puela. Gentine Ngobila a expliqué que du point de vue sanitaire, sécuritaire et légal, il n'était pas possible de l'inhumer dans sa résidence de Ma Campagne à Kinshasa, comme le souhaitaient ses adeptes.
Actualité internationale.
Conflit Israël-Hamas, l'armée israélienne a accepté de faire des pauses de quelques heures chaque jour dans le nord de la bande de Gaza pour permettre aux civils palestiniens de fuir vers le sud, selon Washington. Quelque 1,6 million de personnes sont désormais déplacées à Gaza sur une population totale de 2,4 millions, selon l'agence de l'ONU chargée de la coordination humanitaire. Les points de tension se multiplient aussi en Cisjordanie avec des incursions israéliennes de plus en plus fréquentes.
L'invité.
Au Kassai oriental, la régie des eaux Mbujimayi a reçu un nouveau groupe électrogène de 550 kVA ainsi que deux camionnettes pour le transport du personnel. Cette dotation a été présentée hier au gouverneur de province intérimaire par le directeur provincial adjoint. Godefroy Njo Leke, directeur provincial adjoint de la régie des eaux, s'entretient ici au téléphone avec Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur Godefroy Njo Leke. La régie des eaux Mbujimayi a réceptionné un groupe électrogène. En quoi ce groupe électrogène peut-il vous être utile?
Ce groupe-là va être installé dans notre station de repompage de Bakwakapanga qui assure le refoulement de l'eau de l'usine vers la zone haute et la zone moyenne. Les deux groupes qui étaient en service sont tombés en panne. Ça fait des semaines ou plus même. Nous ne savons pas donner de l'eau à cette partie de la ville si NRK ne nous donne pas du courant. Alors avec l'arrivée de ce groupe et surtout aussi avec l'insuffisance de NRK, ça va résoudre beaucoup de problèmes pour que la partie située dans la zone moyenne et haute de la ville soit desservie en eau potable.
Comment ce groupe va-t-il fonctionner étant donné que vous vous plaignez souvent de l'insolvabilité des abonnés?
Un groupe électrogène fonctionne avec du carburant. Mais nous avons bénéficié de l'appui du gouvernement, notamment la présidente de la République qui nous a doté d'une subvention, mais il y a rupture de stock par rapport à ça. Et là, nous nous débrouillons pour fonctionner. Nous pensons qu'avec le temps, le stock du gouvernement va arriver. Entre temps, nous sommes en train de déployer avec les moyens de bord, c'est-à-dire avec le recette réalisée avec les paiements des abonnés. Alors, c'est-à-dire que si les abonnés ne payent pas, nous avons des difficultés pour fonctionner.
Mais est-ce qu'ils payent normalement?
Malheureusement, non. La population de Mbujimayi ne paye pas correctement l'eau. Même là où nous vendons cash dans les bornes fontaines, les gens sont mis à frauder. Ils vendent 2 mètres cubes, ils déclarent 1 mètre cube. Le reste du temps est avec la bénédiction des techniciens de la rue. Ils arrivent à régresser les index pour qu'on leur facture ce qu'ils ont consommé faussement. Alors là, ça ne nous donne pas les moyens pour fonctionner. Si les abonnés ne sont pas corrects, nous aussi nous souffrons.
Avez-vous un message particulier pour vos abonnés?
Le message, c'est que les abonnés qu'ils puissent payer leurs factures régulièrement, conformément aux services rendus. Nous facturons correctement par rapport aux services rendus aux abonnés. L'idée, qu'ils s'abstiennent à la fraude. Les abonnés mal intentionnés qui fraudent pénalisent les abonnés qui peuvent nous donner les moyens. Malheureusement, ce sont eux qui ont mis en place les moyens de stockage même de l'eau pour revendre à nos abonnés après nos services. Donc, c'est une situation que nous avons dénoncée tant au niveau du gouvernement de la province qu'au niveau même des activistes qui opèrent dans la ville. Nous produisons déjà l'eau qui n'est pas suffisante par rapport à la demande et le prix que nous produisons est volé, si vous me permettez le terme, par les civiques. Et là, nous n'en savons pas avoir le moyen pour régénérer nos outils de production. Quand le groupe électrogène arrive à Mbujimayi, c'est un groupe qui est acheté avec les moyens produits dans d'autres provinces. Et ces moyens-là, ce sont les paiements des factures. Mais pourquoi Mbujimayi ne peut pas s'autosuffire pour que on puisse, à notre niveau déjà, penser à renouveler l'outil de production?
Quelle stratégie avez-vous mise en place pour pousser vos clients à payer les factures de consommation d'eau?
Par rapport à ça, madame, je vais vous apaiser. Nous utilisons même les entités décentralisées, notamment Bougiman, nous utilisons les communes et les quartiers qui nous aident avec des mégaphones à véhiculer l'information en Chiluba, français. Mais le problème, c'est aussi la réaction de la population. Nous le faisons. Quand je vous parle là, nous sommes en pleine campagne de recouvrement parce que nous sommes en train de préparer la fin de l'année et nous demandons à nos abonnés de nous soutenir pour qu'on ait les moyens pour les servir correctement.
Merci beaucoup, monsieur le directeur.
Merci beaucoup, madame.